Bonjour et bienvenue dans cette série de balados intitulée « Leadership en confiance », une collaboration entre parents partenaires en éducation et le Conseil scolaire Viamonde. Je suis Mélanie Gatt, coach certifiée et consultante pour la firme Discitus. Je vous accompagne tout au long de 5 épisodes durant lesquels on revient, on explore ensemble les thèmes abordés lors des sessions de coaching avec les parents leaders du Conseil scolaire Viamonde. Cette série s'inscrit dans un projet d'engagement des parents soutenu par le comité de participation des parents du Conseil scolaire Viamonde. Alors à travers cette série, on va explorer ensemble les dimensions essentielles d'un leadership qui se veut bienveillant, engagé et ancré dans la réalité des parents d'aujourd'hui. Que vous soyez déjà impliqué ou que vous envisagiez de le devenir, on espère que ces échanges vont vous inspirer à jouer un rôle actif et confiant dans la vie scolaire de vos enfants. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'accueille Bertrand et ensemble, nous allons revenir sur les points importants qui ont été abordés lors de la première session sur le thème de la résilience dans un poste de leadership. J'inviterai également Bertrand à nous partager son expérience de la session puis les stratégies concrètes qu'il utilise pour cultiver la résilience au quotidien. Alors, soyez les bienvenus et surtout, restez à l'écoute parce que comme on le sait, le rôle de parent leader est riche en défis. Il y a bien sûr la mobilisation de la communauté, la prise de décision, la conciliation des responsabilités familiales et l'engagement scolaire, tellement d'éléments qui peuvent parfois mettre à l'épreuve notre énergie et notre motivation. C'est pourquoi on va aujourd'hui et durant cette session découvrir des stratégies concrètes pour renforcer notre résilience, mieux gérer le stress et maintenir une attitude positive face aux obstacles. Alors bonjour Bertrand.
Bonjour Mélanie, j'espère que tu vas bien.
Ça va très bien, merci. Et si on saute avant, juste avant de sauter dans le sujet et de parler de résilience ensemble, tu voudrais-tu te présenter et présenter ce que tu fais comme ton implication comme parent dans ta communauté?
Avec plaisir, Mélanie. Je suis parent d'abord de 3 enfants, 2 ados. Il y a une qui gradue là dans quelques jours, qui termine sa 12e année. Mmh. Une autre qui va être en 8e année et le garçon qui sera en septembre en 4e année. Ensuite, je suis consultant en éducation, fondateur et directeur général du cabinet Education Consulting Inc. Nous travaillons énormément avec les écoles, les conseils scolaires, en Ontario évidemment, mais aussi dans d'autres provinces et même à l'international. On travaille beaucoup avec les parents. Notre plus belle collaboration, c'est avec PPE, Parents Partenaires en Éducation. Et voilà le plus gros de nos activités. Par la suite, Mélanie, pour ne pas être très, très long, je suis un des leaders communautaires parmi les plus sollicités pour diverses raisons pour intervenir, par exemple, lors de conférences, lors de soirées, lors de causeries, soirées éducatives, pour partager aussi mon expérience canadienne. Ça fait 21 ans que je vis dans ce magnifique pays. Et à ce titre, je suis souvent sollicité pour accompagner, guider, soutenir des membres de la grande communauté immigrante. Voilà.
Excellent. Merci Bertrand. C'est le fun d'avoir une personne avec toutes ces expériences diverses et importantes pour la communauté. Si on plonge aujourd'hui dans le cœur du sujet sur la résilience, là, pour toi, la résilience, ça ressemble à quoi?
Il y a une métaphore que j'utilise souvent, Mélanie, pour décrire la résilience. C'est lorsque le vent souffle. Il y a de grands vents, il y a de petits vents, évidemment, comme nous savons. Mais lorsque le vent souffle et qu'on voit des plantes ou des arbres flotter là, comme ça, dans le vent, dans la tempête parfois, mais sans céder, sans être brisé. Et le vent va finir par s'arrêter à un moment ou à un autre. Et là, progressivement, cet arbre-là, cette plante-là, va reprendre des forces, va retrouver sa vigueur, sa position dans le temps. Pour moi, c'est la plus belle des images là, qui illustre ce que c'est que la résilience. C'est faire face aux événements, parfois les subir, mais sans craquer, sans abandonner. Mmh. Voilà.
Voilà, c'est beau, hein? Effectivement. J'aime beaucoup cette image-là, de se dire qu'effectivement, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de, d'adversité, d'obstacles, d'embûches dans la vie. Il va y en avoir, c'est quasiment une certitude. Et en même temps, c'est une façon de les traverser, une façon de les traverser peut-être avec ce qu'on appelle maintenant l'intelligence émotionnelle, avec une certaine positivité, ou, dans le sens plutôt de se dire « Ah oui, qu'est-ce que je peux en tirer hein? ?» Souvent, je pose la question comme ça aux gens de « Qu'est-ce que tu es en train d'apprendre dans cette adversité-là » Qu'est-ce qui va t'aider pour la prochaine page de ta vie?
C'est très important, Mélanie. Qu'est-ce qu'on apprend des moments difficiles que nous traversons? Qu'on n'a peut-être pas vu venir, qu'on n'aurait pas souhaité vivre, mais au final, si on fait le bilan, là, j'allais dire objectivement, avec le recul, on se rend compte que même s'il y a eu des déceptions, de la douleur, souvent, on devait passer par là. C'était essentiel, j'ai envie de dire, à notre développement, à notre croissance. Et c'est aussi ça, quelque part, la beauté de la vie, c'est-à-dire qu'on est souvent embarqué sur un chemin qu'on a refusé de suivre. Parfois, c'est ça aussi. Hein. Parfois, on devait suivre ce chemin, on savait qu'on voulait le... peut-être pas qu'on le voulait, mais qu'on devait le suivre. Mmh. On a été tellement réticents, tellement hésitants que les événements se sont chargés de nous forcer à l'emprunter au final. Et puis, en bout de ligne, on s'est dit « OK ». C'est pas pire, hein? c'est pas pire. Ça peut être un fond en mer, mais au final, c'est quand même agréable. Hein? On a cheminé, on a grandi, on est devenu, comme on dit souvent, une meilleure version de soi-même. Voilà.
Oui, absolument. Puis, tu sais, souvent, quand on traverse ces défis-là, on fait preuve, on ressent du stress. Là. Puis, une des choses dont on a parlé dans le webinaire, c'est la gestion du stress. Puis, j'aime à dire qu'avant de gérer le stress, la première étape, c'est de l'identifier. Puis, on pourrait quasiment se demander, il est où dans le corps, notre stress? Donc, quand je dis, je suis stressée, OK, à quoi tu vois que tu es stressée? Il est où dans ton corps? Ça, c'est des questions qu'on peut se poser. Comme si le stress était finalement un signal d'alarme. C'est quelqu'un qui nous dit, hey, je pense qu'il y a quelque chose qui va moins bien ici. J'ai une question pour toi, Bertrand. Comment tu gères le stress dans ta vie?
Déjà, je vais dire, Mélanie, que j'aime le stress. Les études montrent que, à petite dose, le stress est très, très, très positif. C'est le stress à petite dose qui nous pousse à nous dépasser, qui nous pousse, si on a une présentation, par exemple, à faire, qui nous pousse à réviser, à s'assurer que, voilà, on fait attention aux petits détails. Est-ce qu'on est vraiment prêt? Est-ce que ceci? Est-ce que... Voilà. Donc, ça, le stress nous amène à dépasser quelque part nos limites, à performer jusqu'à un certain point. Maintenant, il y a une forme de stress qui peut, ou un niveau de stress qui peut être dangereux, comme nous savons. C'est le stress qui paralyse. C'est le stress qui pourrait paralyser. Le stress qui pourrait nous amener à douter de nos moyens, de nos capacités, le stress qui pourrait nous amener à nous isoler, etc., etc. Ça, c'est du mauvais stress. Un peu comme souvent, on va parler du bon cholestérol et du mauvais cholestérol. Vous avez certainement entendu. Voilà. Alors, je crois que c'est pareil pour le stress. Alors, comment je gère mon stress, là, Mélanie? J'aime beaucoup lire. Moi, je suis un rat de bibliothèque, comme on dit encore. Je lis énormément, j'aime beaucoup marcher. À une époque, j'allais au gym, mais avec la pandémie, j'ai perdu cette habitude et je ne l'ai pas retrouvée. Donc, je marche énormément. Je peux marcher 2, 3, 4 heures, surtout quand il fait beau, là, au printemps, en été. Je marche et je marche à n'en plus finir. Alors, quand je marche, il y a plusieurs choses que je fais. Il y a une étape où je marche silencieusement, où je suis... Même si je suis dans la rue ou dans un bois, là, dans un sentier, je suis seul avec moi-même. Il y a une autre étape, puisque ce sont de longues marches, là, une autre phase où, OK, j'ai fait peut-être 45 minutes, une heure tout seul avec moi-même, même si je suis à l'extérieur. Mais à un moment donné, j'aurais senti le besoin de passer un, deux, trois coups de fil à certaines personnes clés pour moi. Et on va parler de tout et de rien. Une autre fois, je vais juste me connecter, écouter un peu de musique, écouter telle ou telle émission sur YouTube, par exemple. Il y a comme ça des chaînes YouTube que je suis très, très, très régulièrement. Et voilà comment je vais remplir 2-3 heures de marche aisément. Donc, il y a la lecture, il y a la marche, il y a l'envie de connecter avec des proches ou quelques très, très, très bons amis. des personnes qui comptent vraiment pour moi.
Ça, c'est des belles façons, effectivement, de gérer les tensions ou le trop plein de stress, parce que j'aime beaucoup que tu rappelles qu'il y a du bon stress et du mauvais, du stress qui est plus paralysant, comme tu dis. On parle aussi souvent, tu sais, quand on parle de la gestion du stress, de nommer ses émotions puis nommer ses besoins. Donc, c'est des choses qui reviennent souvent dans... c'est important de savoir... Oui, je suis stressée, mais comment je me sens? Au fond, c'est comme si le stress, puis là, je parle évidemment du gros stress, celui qui est paralysant, qui me fait dire, OK, stressé, c'est la première étape, mais ma deuxième étape, ce serait de nommer comment je me sens, c'est quoi l'émotion qui est en arrière? Puis une fois que j'ai cette émotion, c'est quoi la chose dont j'ai besoin pour aller mieux? Est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques, toi, Bertrand?
Absolument, absolument. C'est pas important depuis, je dirais, à peu près une quinzaine d'années maintenant, Mélanie. J'ai découvert... L'auteur Daniel Goleman, qui est bien connu, son livre à succès sur le grand classique l'intelligence émotionnelle, Daniel Goleman. Mm-hmm. Oui, et c'est, la lecture de ce livre m'a fait réaliser l'importance de... Tu faisais allusion il y a quelques minutes, l'importance de l'intelligence émotionnelle, de prendre conscience de ses émotions, de ses états d'âme. De les nommer comme tu viens de dire, et puis de finalement se demander, OK, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que c'est ça le plus important finalement? Nous sommes tous des êtres d'émotions à des degrés divers et selon les contextes, les situations. Et je crois que ce qui nous distingue, c'est qu'est-ce qu'on fait de nos émotions? Comment est-ce qu'on gère ces émotions? Est-ce qu'on est capable de faire de nos émotions, même celles qu'on peut qualifier de négatives, entre guillemets, est-ce qu'on est capable de les transformer pour notre bien, pour avancer vers nos objectifs, ou bien alors est-ce qu'on y reste, est-ce qu'on y patauge, et est-ce qu'on a du mal finalement à s'en sortir, à se dégager de ces émotions. Parce que même les émotions dites positives, là, peuvent être négatives à travers les conséquences, à travers les actions qu'elles nous amènent à poser. Donc, voilà les réflexions que j'ai souvent.
C'est intéressant. Puis, tu sais, tantôt, tu parlais de marche, tu parlais de pleine conscience, là, d'être pleinement présent à soi dans ces moments-là. On parle aussi beaucoup de la respiration. Tu sais, il y a plusieurs techniques de respiration. On parle de cohérence cardiaque, on parle du 4-7-8, on parle du... peu importe, il y a toutes sortes de méthodes de respiration. Comment elle est la respiration dans ta vie? C'est quoi sa place?
Elle est très importante. Je fais beaucoup de développement personnel, comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis la respiration joue un rôle très, 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 très important. Exemple. Une des routines, de mes routines là que je vais partager, Mélanie, c'est que chaque matin, en général, il y a quelques matins où, voilà, je ne sais pas le temps ou bien il y a d'autres priorités, mais en général, le matin est au réveil, hein, et le soir, avant de me coucher, il y a des exercices que je fais. Il y a des audios, certains auteurs, certains enregistrements, voilà, que j'écoute et que je réécoute et que je réécoute. Et ces enregistrements commencent par la respiration. C'est-à-dire qu'avant de les écouter, avant d'écouter ces audios-là ou de faire ces exercices-là, il y a des exercices de respiration. C'est super important. Au début et à la fin. Donc, tous les matins et tous les soirs. Et puis aussi, il y a des moments dans la journée, comme depuis... quelques années, je travaille de la maison avec des interventions à l'extérieur. Alors, quand je suis à la maison, comme aujourd'hui, là, par exemple, je peux être plongé dans l'analyse de ceci ou de cela, travailler sur les dossiers, préparer telle ou telle formation, rédiger tel ou tel article, une, deux, trois heures. À un moment donné, je ressens, ce n'est pas juste un endroit, ce n'est pas tel ou tel... Certains vont dire peut-être le coup, peut-être si, peut-être... Moi, c'est mon cerveau, c'est tout mon être qui me dit, Bertrand, là, tu dois arrêter. Et je vais m'élever, je vais faire quelques 10 minutes, y compris de respirer profondément, plein. pleinement hein, ce qu'on m'a appris dans le développement personnel. Sortir, marcher ou même juste marcher à l'intérieur. Une fois de plus, là, je ressens parfois le besoin de passer un coup de fil. Certaines personnes, à quel point, voilà. Et puis, ensuite, je reviens dans mes dossiers. Je reviens, voilà. Je reviens préparer telle formation ou bien ou rédiger tel ou tel article. Alors, voilà comment, Mélanie, pour conclure cette réponse, j'incorpore donc la respiration dans mon quotidien.
Wow! T'sais, on a parlé beaucoup de gestion de stress, de pleine conscience, de respiration. Dans le webinaire, on a abordé aussi toute la partie sur le conflit. C'est la façon dont on réagit, puis tout le monde réagit différemment dans le conflit. Il y a des gens qui vont se replier, d'autres qui vont combattre, d'autres qui vont argumenter, d'autres qui vont crier, peu importe. Là. Donc, il y a ces réactions-là. Puis, en lien avec cette réaction, il y a le scénario, l'histoire que je me raconte. Hein. C'est quoi la pensée automatique qui s'en vient quand je suis en situation de conflit? Puis, on expliquait comment on pouvait évidemment recadrer ça, c'est-à-dire se raconter une histoire bienveillante. Toi, dans ta vie, comment tu gères le conflit, Bertrand?
Très bonne question. Il n'y a pas de vie sans conflit. Hein. Je crois que c'est ce qui donne d'ailleurs de la saveur à la vie. Un peu comme dans le roman, j'ai un passé de prof, là, d'enseignant de littérature et de communication. Mm. Et ce qui fait la beauté d'un roman, c'est le conflit, ou d'une pièce de théâtre, c'est le conflit. Il n'y a pas de roman, il n'y a pas de pièce de théâtre sans conflit. Voilà. Et il n'y a pas de vie tout court, puisque le théâtre est à l'image de la vie. C'est une recréation de la vie. Il n'y a pas de vie sans conflit. Alors, comment est-ce que je gère le conflit? Disons qu'avec les années, avec l'expérience et avec... je parlais de ma découverte là, de l'intelligence émotionnelle, là, la lecture des livres de Daniel Goleman, il y a à peu près 15 ans maintenant, je me suis beaucoup amélioré dans la gestion des conflits. À une époque lointaine déjà, je pouvais m'énerver très, très, très fort. Je pouvais, voilà, certaines situations conflictuelles pouvaient m'amener à, on va dire, à sortir de moi un peu. Mais j'ai appris à rester très, très, très calme. Certains trouvent d'ailleurs que je suis étonnamment calme. Quand on s'attend peut-être à ce que je réagisse, à ce que je vois, à ce que je parle, je vais rester très, très calme. Souvent, je vais rien dire ou bien juste une phrase. Si je sens que ce que je viens de voir ou ce que je viens d'entendre risque de me faire sortir de moi, je vais juste partir. Je dis non, ok, c'est bon, on en reparle plus tard, on se revoit plus tard et puis continuons la conversation plus tard. Arrêtons là tout de suite, voilà. C'est ma façon de dire, j'en ai assez là pour le moment et puis j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Je fais extrêmement attention à ce que je dis, extrêmement, extrêmement attention aux mots que je prononce. Et plus tard, ça peut être quelques heures, ça peut être quelques jours, je vais revenir avec une autre perspective de la situation. Je crois que c'est super important d'essayer le plus possible de se mettre à la place de l'autre. Ce n'est pas évident, évidemment, dépendamment de ce qui est en jeu, mais il vaut mieux se mettre à la place de l'autre et il vaut mieux, autant que possible, il vaut mieux accorder, j'allais dire, le bénéfice du doute un peu à l'autre. Parce que ce qui est dangereux dans les échanges, dans la communication, dans les conflits, c'est de prêter des intentions malveillantes à l'autre, de faire des interprétations parfois erronées, parce qu'on regarde la situation de notre point de vue, on regarde la situation avec nos lunettes, avec notre filtre à nous, en oubliant que l'autre utilise des lunettes ou des filtres différents. C'est ça le défi. Mais j'ai appris à... Évidemment, c'est pas parfait, mais j'ai appris avec le temps, avec mes lectures, les formations que j'ai suivies et que je donne aussi. Ça, tout cela m'aide à avoir une perspective beaucoup plus, comment je vais dire ça, beaucoup plus philosophique. Est beaucoup moins émotionnel. Et au final, les conflits sont positifs, à condition que les deux parties, parce qu'on est deux là, au moins deux, hein, deux protagonistes dans un conflit, à condition que les deux parties veuillent arriver à finalement connecter ou à reconnecter. Et souvent, et je vais terminer là, Mélanie, souvent les conflits bien souvent, en tout cas, les conflits nous amènent à nous rapprocher de l'autre, à voir ce qu'on n'avait pas vu, et ça peut devenir un enrichissement pour nous comme pour l'autre.
Ah, c'est beau, hein? Comment tu viens de boucler une boucle, hein? Tu démarres en disant que le conflit, il est nécessaire dans la vie, puis que c'est ça qui pimente, et puis tu fais l'analogie avec les pièces de théâtre, puis tu finis sur ça, hein? Sur dire comment ça peut nous rapprocher, donc finalement, quelle valeur on peut accorder à ça. Je reviens sur les deux notions, tu sais, d'intention. On en a parlé, en fait, on en parlera plutôt dans un épisode suivant, là. On en a parlé dans les webinaires de l'intention positive et de l'intention de la discussion quand on a une conversation un peu difficile à avoir des fois. Quand on a une conversation difficile, c'est important tout de suite de placer l'intention. En gros, c'est qu'est-ce que j'aimerais qu'il y ait à la fin de cette discussion? Comment j'aimerais que l'autre se sente à la fin de la discussion? Tu sais, peut-être j'aimerais ça qu'on échange, qu'on continue de bien collaborer, j'aimerais ça qu'on travaille encore mieux ensemble. C'est quoi mon intention avec cette discussion en lien avec le conflit qui nous oppose? Et en même temps, quand je dis qui nous oppose, je suis comme, je pourrais peut-être mettre autre chose que qui nous rassemble, comme tu disais tantôt. Avec toute cette notion d'intention, qu'est-ce que je veux avoir à la fin comme résultat à la suite de ça? Si l'intention n'est pas belle, n'est pas positive, il faut qu'on se remette en question. C'est probablement qu'il y a encore une petite, l'expression ici, ce serait une petite crotte sur le cœur, il y a encore quelque chose d'émotionnel. Puis ça, c'était intéressant de la façon dont tu abordais le conflit en disant, mais l'émotion, à un moment donné, je me recule, puis je vais digérer un petit peu cette émotion avant de revenir dans quelque chose de probablement plus factuel, plus cartésien, qui nous permet à ce moment-là d'être plus à l'écoute de l'autre et moins sur la réaction, la défensive, etc., ou même l'attaque. Fait que ça, c'est la première chose, l'intention dans les conversations qui se peuvent être un peu difficiles. Puis, tout le recadrage que tu as apporté avec l'analogie des lunettes, hein, de se dire, ben là, je porte mes lunettes avec mes filtres à moi, avec mes faces, mes croyances dans la vie. Et si je prêtais une autre intention à cette personne, qu'est-ce que ça pourrait être? Puis ça, c'est l'exercice en coaching qu'on fait souvent de l'intention positive. Et quand vous voyez quelqu'un qui a voulu prêter une intention qui est peut-être un petit peu malveillante, juste de vous ramener en vous disant, OK, cette personne, elle ne s'est pas levée ce matin pour m'embêter. C'est sûr, elle ne s'est pas levée en se disant « Ah, ce matin, mon objectif du jour, c'est d'aller embêter Mélanie. » Elle s'est plutôt levée de cette façon et puis voici ce qui est arrivé. Donc, c'est quoi son intention positive à cette personne dans ce conflit-là? Et puis, plus souvent qu'autrement, c'est souvent une insécurité en lien avec quelque chose. J'imagine que tu as remarqué ça à la fois comme parent, mais aussi dans tes pratiques, Bertrand?
Bien sûr, bien sûr. L'essentiel... L'intention, c'est tout. Là. L'intention, c'est l'essentiel. Et il y a un livre que j'ai écouté, qui est d'ailleurs disponible. Je l'ai écouté en anglais. Peut-être qu'il a été traduit, j'imagine, parce qu'il a beaucoup de succès. L'auteur, c'est Wayne Dyer. Power of Intention, le pouvoir de l'intention. Il explique toute l'importance de l'intention dans nos échanges avec les autres, dans nos décisions, dans ce que nous faisons. Parce que l'intention va nous amener à choisir une certaine posture. L'intention va nous amener à choisir les mots, à choisir le ton. L'intention va nous amener à nous positionner d'une façon ou d'une autre, etc., etc. L'intention va déterminer aussi notre niveau de patience, le niveau d'attention, d'écoute qu'on veut accorder à l'autre. Tout part de l'intention, en fait. Absolument, absolument, tout part de l'intention. Et le fait, comme tu viens de dire, Mélanie, le fait de clarifier au départ son intention, là, l'intention d'une communication, l'intention d'un échange, d'un coup de fil, ça vient, pour nous et pour l'autre, ça vient clarifier tellement de choses. Ça vient enlever un grand poids sur nos épaules et sur les épaules de l'autre. Ça vient aussi anticiper sur les malentendus éventuels, anticiper sur, faire tomber le stress éventuel. Parce que quand on sait sur quoi va porter une conversation, quand on sait quel est le but visé par une conversation, c'est tellement plus facile ensuite de se parler. Tellement, tellement, tellement plus facile de se parler. Ça permet vraiment d'aller droit au but,
ça permet de libérer, de frayer le chemin à une, à de véritables échanges, de frayer le chemin vraiment à une véritable connexion. C'est super, super important, effectivement, de clarifier l'intention dès le départ, plutôt que de laisser l'autre supposer ceci ou cela.
Ouais. Absolument. Mais merci beaucoup, Bertrand, pour ton témoignage. Je le trouve vraiment inspirant. Puis ta résilience nous rappelle que, tu sais, le leadership parental, c'est pas la perfection, c'est la persévérance, c'est l'adaptation, la foi dans notre capacité d'avoir un impact, même en période d'incertitude. Alors, un grand merci encore au Conseil scolaire Viamonde puis son comité de participation des parents pour leur initiative et leur soutien financier dans la réalisation de cette série de balado. Merci de nous avoir écoutés, puis à très bientôt pour le deuxième épisode où on va parler de l'établissement d'un lien de confiance. Merci Bertrand.
À votre plaisir, Mélanie.